Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous, voici le carnet de région, l'actualité en Occitanie, préparé par plusieurs radios associatives de la région. Au sommaire cette semaine, Radio 48 FM nous présente le nouveau passeport du savoir nager mis en place dans les écoles de Lozère. Un collectif mouvement du citoyen libre vient de se créer à l'initiative d'anciens gilets jaunes à Béziers. Radio Pays d'Hérault l'a rencontré. Radio RCF Maguelone Hérault a arpenté les allées du salon du vin bio de Montpellier, millésime bio, et a rencontré un vigneron. Présentation avec Radio Grille Ouverte du livre du directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Patrick Cabanel. Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Un nouveau passeport du savoir nager pour les élèves du primaire. Ce petit document, créé en Lozère, regroupe en quelques pages les différents tests à réussir pour qu'un enfant devienne autonome dans l'eau. Gilles Michel, directeur de la piscine de Saint-Chély-d'Apché, responsable de la Fédération départementale des maîtres nageurs sauveteurs de la Lozère.
Cette réflexion, elle est partie d'un schéma très simple, c'est de se dire que quelqu'un qui tombe à l'eau doit pouvoir s'en sortir. Parce que si je vous demandais individuellement qu'est-ce que c'est pour vous le savoir nager ou qu'est-ce que c'est pour vous savoir nager, chacun aurait une définition complètement différente. Mais à un moment donné, l'État s'est posé la question, quand un enfant tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Et donc tout le schéma, ça a été de recréer les modes d'apprentissage qui permettent de comprendre et d'arriver à ce qu'un enfant ne se noie pas. Donc une chute dans l'eau doit amener à ce que l'enfant puisse s'en sortir. Et donc pendant plusieurs années, c'est-à-dire jusqu'en 2007-2008, il y a une commission qui a travaillé plus de 40 réunions pour arriver à la définition de cette nouvelle pratique à travers les tests de l'école de natation française que sont le test du sauvenage, du passeport de l'eau et du passe compétition. Là-dessus, l'éducation nationale est venue se rajouter derrière dans le schéma, a trouvé que le test du sauvetage était un peu compliqué, notamment sur le fait d'aller chercher un objet au fond, et a travaillé sur une réflexion, sur un test un petit peu moins difficile, mais arrivant au même résultat. Et donc c'est ce test de la ASSN, attestation scolaire du savoir nager, qui a donc été créé.
Récupérer des objets au fond du bassin, se déplacer dans l'eau, réaliser une chute ou un plongeon sont autant d'exercices que les enfants devront apprendre pour pouvoir se sécuriser et se mouvoir aisément dans l'eau avant la sixième. Jean-Claude Schwartz, président national des maîtres nageurs sauveteurs de France.
Les enfants devraient savoir nager, ce qui est loin, loin d'être le cas. Alors, c'est pas une personne qui est responsable, c'est tout un système qui coûte de l'argent, il manque des moyens, des transports, des piscines, enfin, il y a plein de choses. Hein. Alors, si vous avez un cycle où vous avez des enfants qui vont 16 fois dans l'année à la piscine, ben, ils vont mieux s'en sortir que ceux qui vont faire que 7 ou 8 fois, hein, un demi-cycle. Et encore, quand on parle d'un demi-cycle, on est gentil. Faut pas qu'il y ait un jour férié, faut pas que le chauffeur du bus qui ait une panne, etc. Donc après, on est même plus dans des demi-cycles. Notre prétention, c'est de dire, faisons, et donnons-nous les moyens à ce que nos enfants des écoles primaires, quand ils arrivent en 6e, savent tous réellement nager. Et on aurait sûrement moins de constats de noyades d'enfants de cet âge-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même inadmissible que des enfants d'âge de 10, 11, voire 12 ans se noient encore aujourd'hui en France.
En Lozère, les scolaires disposent de 3 piscines pour passer les différentes épreuves du passeport savoir nager. C'était un reportage réalisé par Léa Jacquet pour Radio 48 FM.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
En parallèle au mouvement des Gilets jaunes à Béziers, dans l'Hérault, un nouveau collectif a vu le jour, le mouvement du citoyen libre. Son objectif est d'organiser des discussions entre citoyens de tous horizons, de trouver des solutions concrètes aux problèmes soulevés par le mouvement des Gilets jaunes notamment, et de les faire remonter auprès des élus. Ce nouveau relais de doléances citoyennes se dit détaché du mouvement des Gilets jaunes et rattaché à aucun parti politique. Il a pourtant été créé par quelques anciens Gilets jaunes de Béziers. C'est le cas de Chantal Lapuerta, membre et cofondatrice de cette association. Elle explique la genèse du mouvement du citoyen libre.
Il est né suite justement à cette foule de Gilets jaunes qui...
sont un peu éparpillés aujourd'hui entre des gens politiquement parlant qui veulent s'approprier ce mouvement et qui ne se retrouvent plus. Donc voilà, et qui sont entrés aussi dans une violence prononcée, et on ne souhaite pas avoir de violence. Les premiers principes des Gilets jaunes, c'était le pacifisme et apolitique. Aujourd'hui, on en est loin. Tout le monde sait qu'il y a de la politique autour et que c'est néfaste à tout ce qu'on voulait revendiquer, puisque les trois revendications premières ont été complètement évincées. Elles le sont éparpillées au milieu de plein de doléances qui n'ont plus rien à voir. Et tout le monde s'y perd. Donc les Gilets jaunes ne savent pas trop où ils en sont par rapport à ça. Et on a vraiment l'impression de vouloir leur tendre la main en leur disant, si vous êtes perdus, si vous pensez que vous avez plus votre place, parce que c'est possible, eh ben on est là. On a fait une association pour ça. On a fait une association pour tous les citoyens, quels qu'ils soient. Alors c'est une association qui a pour but d'améliorer la citoyenneté française. Donc avec n'importe quel problème social de sa vie quotidienne, hein, au concret, qui puisse aboutir à des réponses au niveau des pouvoirs publics, on est là pour ça. Voilà, on va tout faire pour remonter tout ça. Alors on va faire des tables de discussion sur toute forme qu'elle soit, c'est-à-dire socialement parlant, il y aura un pompier, une aide-soignante, un chômeur, une famille monoparentale, un retraité, on aura tous ces gens autour d'une table qui vont pouvoir donner en fait des doléances communes et des doléances bien particulières, donc ça va être très large. Et sur ce, ben, tout le monde va un peu se reconnaître en tout ça. Et essayer de faire vraiment des solutions concrètes pour les faire remonter auprès des autorités publiques. Locales, régionales, départementales, nous avons aussi nationales et pourquoi pas européennes. C'est petit, ça démarre, mais on compte aller bien loin, c'est-à-dire que ça n'en restera pas là. On va aller embêter l'élu. L'élu dans toute sa forme, c'est-à-dire que ils sont élus à notre service et pas l'inverse. On en a marre de les écouter et ils ne nous écoutent pas. Donc nous, on va faire en sorte qu'ils nous écoutent sous une forme bien structurée. On ne pourra pas dire cette fois-ci qu'on n'est pas structuré.
C'était Chantal Lapuerta, membre du mouvement du citoyen libre. Trois réunions d'information sont prévues par le collectif Biterrois en février, le 12 à Lodève, le 15 à Béziers et le 18 à Paulhan. Une interview réalisée par Xavier Thérien de Radio Pays d'Hérault. Le salon Millésime Bio s'est tenu cette semaine à Montpellier. C'est l'un des plus gros salons de vin bio au monde et un événement à ne pas louper pour les vignerons bio. Le salon leur permet de rencontrer leurs clients et souvent de vendre leur production. Jean-Baptiste Pérol, vigneron bio près du Pic Saint-Loup dans l'Hérault.
Pour moi, petit vigneron, 12 hectares, autour de 40-45 000 bouteilles, c'est un salon essentiel, c'est le salon. C'est le seul salon que je fais et où, si tout se passe bien, je vends quasi la totalité de ma production.
C'est pas la première fois que vous faites ce salon, on est bien d'accord?
Non, ça fait 3 ans que je le fais. Mes clients viennent me voir, se rassurent en goûtant les nouveaux millésimes, me font des raisins en fonction de ce qu'ils ont pris l'an dernier, ce qui leur a manqué ou ce qu'ils ont réservé en trop. Et forcément, il y a un renouvellement perpétuel, donc on rencontre de nouveaux clients.
Depuis combien de temps vous avez l'affiliation biologique justement de votre vin?
Alors moi, je suis retourné en France au domaine en 2008 et j'ai tout de suite démarré ma certification qui dure 3 ans. Donc 8, 9, 10, ma première année certifiée, c'est 2011.
Pouvez-vous nous expliquer les étapes, le cheminement pour avoir cette filiation biologique?
Oh, mais l'agriculture biologique, c'est très simple, c'est aucun intrant synthétique, c'est-à-dire plus de molécules issues de la chimie. Donc les contraintes techniques, ça va être maîtriser l'herbe sans utiliser de désherbants chimiques. Bon, le plus connu, le glyphosate. Et puis, sur le végétal, plus d'intrants chimiques, donc uniquement des molécules naturelles, comme le cuivre, pour lutter contre le mildiou, la plus connue, ou le soufre, pour lutter contre l'oïdium.
Quel est votre avis sur ces produits? Il en faut, il n'en faut pas? Quel est votre avis?
C'est un sujet assez délicat. Je suis issu du milieu coopératif. Nous avons encore quelques vignes familialement qui ne sont pas menées en agriculture biologique, mais qui sont menées de manière propre et avec de l'éthique. Donc je ne suis pas extrémiste là-dessus. C'est sûr que c'est une tendance. L'opinion publique s'en mêle et la pression est forte vis-à-vis des vignerons. Et de toute façon, tant mieux, parce que les vins biologiques se vendent mieux. Donc tant mieux, ça pousse les producteurs hésitants à franchir le cap. Il ne faut pas faire ça sur un coup de tête. Il faut s'équiper, connaître ses terroirs. c'est primordial. Mais aujourd'hui, des moyens techniques sont mis à disposition, des aides financières de l'État, des institutions et même de l'Europe sont dégagées pour aider les vignerons à acheter du matériel. Donc je suis un grand fervent de l'agriculture biologique. Et outre mesure, l'aspect écologique, c'est l'aspect gustatif des vins. Après quelques années, lorsque l'on travaille ces sols, on retrouve des acidités un peu plus élevées et des équilibres plus faciles à obtenir dans les vins.
Dernière question, Jean-Baptiste Perrol, quelles sont les qualités et l'exigence que doit avoir un vigneron qui produit justement de la filière biologique ?
Alors une année comme 2018 a été assez compliquée, la plus compliquée de ma jeune carrière, je crois même la plus compliquée des dernières années. Il faut être alerte, il faut être assez vif. Moi, ma force, petit domaine de 12 hectares, je suis très réactif. S'il fallait traiter 2 voire 3 fois le vignoble dans la semaine, je peux le faire. La réalité, en cas de forte pression phytosanitaire, des maladies, il faut être réactif. Il faut que les fréquences de passage soient élevées et diminuer les doses. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai réalisé 13 traitements, alors qu'en moyenne, sur les 10 dernières années, j'étais plutôt à 8. Mais j'ai sauvé ma récolte. Et en utilisant moins de 4 kg de soufre par hectare, la limite étant 6 kg.
C'était Jean-Baptiste Perrol au micro de Cédric Combé pour RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'historien Patrick Cabanel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, a publié fin 2018 un ouvrage qui fera date dans la recherche historique consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Le premier récit exhaustif d'une terre de refuge, les Cévennes, qui, dans la France de Vichy, de 1940 à 1944, accueillirent et cachèrent 1 millier de Juifs. Ce livre de synthèse sur l'une des plus belles et des plus discrètes pages d'une rencontre entre une terre de résistance et des persécutés est le fruit d'un long travail de résurgence, d'une mémoire modeste et anonyme parfaitement résumée par le long titre du livre de Patrick Cabanel « Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout ». Invité par l'École des mines d'Alès, il explique le sens de cette phrase.
Je le trouvais personnellement trop lent, mais en vérité, je vois que cette phrase a beaucoup de succès. C'est une phrase qui a été prononcée par un témoin qui d'ailleurs est resté anonyme, dans les années 1980. Quelqu'un qui disait, on a caché des juifs, on va pas en faire des tonnes, on va pas en faire des médailles, même pas des livres. Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. Et c'est typique, pas seulement dans les Cévennes, c'est typique, je dirais, de ces gens qui, dans les années 40, ont aidé ou sauvé des juifs et qui estiment qu'ils n'ont rien fait là d'héroïque. L'idée, c'est que l'histoire, c'est la résistance armée, politique, ce que nous appelons aujourd'hui la résistance civile, qui consiste simplement à protéger un juif des prédateurs qui le visent. Pour ces gens-là, ça n'était pas héroïque. Ils trouvaient ça presque naturel, alors que nous pensons que ça n'est absolument pas naturel quand on est dans une période de guerre, d'occupation, de dictature, de faire échapper des proies désignées, de prendre des risques, de faire des faux papiers, les cacher, les acheminer jusqu'en Suisse, etc. Nous, on considère comme historiens qu'ils ont fait vraiment quelque chose d'important. Eux, il y a cette forme de modestie qui n'est pas propre aux Cévenols, qui est, je dirais, propre à l'ensemble de ces Européens qui ont aidé des Juifs par humanité.
Si ces événements se reproduisaient aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y aurait la même attitude ?
Ça, c'est une question qui n'est pas facile. J'en suis pas persuadé. Mais après tout, je n'en sais rien. L'historien, vous savez, n'est pas à l'aise quand on lui demande de prédire l'avenir ou même de faire des parallèles entre le passé, qui est son métier, et l'actualité. Je dirais 2 choses. Je vois qu'en Cévennes, il y a toujours un certain climat social, un climat politique et culturel qui est plutôt favorable à l'accueil de l'étranger, à l'évidence. Il y a toujours une tradition de gauche, pour le dire vite, qui là me rendrait plutôt optimiste. Mais d'un autre côté, et là, soyons clairs, il s'agit de juifs. Je pense que la France d'aujourd'hui, y compris dans le milieu protestant qui est capital dans les Cévennes, n'a pas cette sorte de sympathie native, de ce philosémitisme, je dirais, d'essence qui existait dans les années 1940, parce qu'entre-temps, il y a toutes les querelles israélo-palestiniennes. Donc je ne suis pas certain, vous voyez, on ne peut pas faire des parallèles, mais d'un côté, la tradition d'accueil est là, à l'évidence, elle joue. D'un autre côté, cette sympathie entre protestants et juifs me paraît aujourd'hui un peu affaiblie par rapport à ce qu'elle pouvait être dans les décennies précédentes.
Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout, de Patrick Cabanel, est publié par les éditions Alcide. Il se trouve dans toutes les bonnes librairies de la région. Un sujet présenté par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. Ainsi s'achève le carnet de région, magazine d'information réalisé par des radios associatives de la région Occitanie. Rendez-vous la semaine prochaine à la réalisation, ce sera Radio Lodev.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.